Bonjour tout le monde. On initie les podcasts de Kinefact. Donc, les podcasts de Kinefact sont des podcasts assez courts qui seront orientés pour traiter des points très spécifiques, au contraire des articles et des infographies qui sont généralement beaucoup plus larges. Et pour ça, du coup, nous interrogeons des experts du domaine. Donc, aujourd'hui, nous avons Laurent Fabre. Bonjour Laurent.
Salut Anthony.
Donc, Laurent, si je me trompe pas, donc du coup, tu es ostéopathe, tu es passionné de neurosciences et d'esprit critique, tu t'occupes beaucoup des douleurs persistantes complexes, ou des douleurs complexes en tout cas, et tu es impliqué dans la recherche.
Ouais, c'est ça.
C'est
C'est ça.
bon, c'est tout.
T'as bien résumé.
Ok, donc moi, c'est Anthony Halimi. Aujourd'hui, on va parler de la sensibilisation centrale et commencer par évoquer qu'est-ce que la sensibilisation centrale. Donc, est-ce que tu aurais une réponse à nous apporter, Laurent?
Réponse sur la sensibilisation. Ouais, j'ai une réponse. Ouais. C'est un phénomène physiologique. Alors, ça
Ouais.
dépend si on parle de définition de l'IASP ou de différents auteurs, mais s'il fallait retenir un truc de la sensibilisation centrale, c'est d'abord un phénomène physiologique qui est dû à l'ouverture de canaux dans la première synapse nociceptive. C'est le phénomène neurophysiologique qui a été mis en évidence il y a quelques années.
D'accord, et donc tout est basé au niveau de la première synapse nociceptive pour la sensibilisation centrale, au niveau du coup de la corne postérieure de la moelle, c'est ça, donc c'est au niveau de la moelle épinière pour ce qui avait été mis en évidence il y a quelques années.
Corne dorsale, c'est ça, c'est les travaux de Wolf, de Lamothe, de tous ces
Ouais.
gens-là.
D'accord, donc est-ce que toi du coup t'inclurais un peu tout ce qui est augmentation de l'utilisation des voies facilitatrices descendantes de la nociception, diminution des voies inhibitrices. Est-ce que tu intégrerais d'autres choses dans cette définition?
Eh ben. Si je m'en tiens juste à ce qui a été découvert et à l'histoire de la découverte de la sensibilisation centrale, je dirais que c'est juste la facilitation de la première synapse due à l'ouverture de canaux NMDA. Après, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés et en fait, c'est un peu dur de s'y retrouver. Mais j'inclurais pas tout ça. Non, pour moi, ça, c'est de la sensibilisation. C'est une façon du système nerveux de réagir, mais c'est pas le terme de sensibilisation centrale. Pour moi, la sensibilisation centrale, telle que c'est expliqué et telle que ça a été découvert dans les études, c'est vraiment de la potentialisation à long terme, like. C'est une forme d'apprentissage et de mise en mémoire de l'information, de plasticité de la première synapse.
D'accord, je vois. Et est-ce que tu es au courant du coup, t'as dit que certaines personnes rajoutent d'autres choses? Tu es au courant d'un petit peu de tout ce qui est rajouté?
Ben en fait, c'est ce que je suis au courant de ce que j'ai rajouté par les auteurs ou par ou ce qu'on trouve dans le mainstream, dans les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la sensibilisation centrale, après, ça a été un terme usité partout, en fait.
Ouais.
Et donc, enfin, ça a été un truc qui était bien parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait expliquer des phénomènes neurophysiologiques douloureux qu'on ne comprenait pas avant. Et le truc, c'est que ça a été un peu surutilisé pour dire bah maintenant à chaque fois qu'un patient il a une douleur qu'on comprend pas, bah c'est de la sensibilisation centrale. Ou à chaque fois qu'un patient a une douleur chronique, c'est de la sensibilisation centrale.
Oui, exactement, ouais, je pense, c'est ça.
Et donc
Et
c'est
du
ça qui
coup,
a
il y
été
a...
rajouté en fait, c'est que dès qu'on n'explique plus une douleur maintenant, ou dès que la douleur est chronique, maintenant bah c'est de la sensibilisation centrale.
D'accord, ouais. Et du coup, tu penses que c'est un peu différent de ça actuellement si on se base sur la définition de base de Wolf.
C'est
Ouais.
ça. Moi, c'est pour ça que je préfère, par exemple, la nouvelle définition de la douleur nociplastique. Parce que dans la douleur nociplastique, c'est une histoire de plasticité des voies nociceptives, l'altération de la nociception, sans qu'on puisse prouver que les nocicepteurs soient activés.
D'accord, très bien. Donc, du coup, tout ce qui est... Est-ce que, par exemple, tout ce qui est augmentation du système immunitaire, parce qu'on a remarqué que chez certaines personnes qui avaient des douleurs persistantes, le système immunitaire marchait à plein pot, donc ce qui créait une inflammation, qui augmentait un petit peu la quantité de nociception montante, mais de fait, par une augmentation à la fois périphérique, du coup, les nocicepteurs périphériques fonctionnent à plein pot à cause de l'inflammation, mais aussi centrale, parce que l'inflammation vient augmenter, créer une fasciation synaptique. Tout ça, est-ce que tu l'inclurais aussi dans la sensibilisation?
Ben,
Dans
en fait, c'est à
la
quoi
douleur
ça...
plastique.
Ben, c'est ça, douleur nociplastique. Oui, je pense que en gros, aujourd'hui, on classifie trois grandes douleurs. On classifie la douleur nociplastique, la douleur nociceptive et la douleur neuropathique. Et aujourd'hui, il y a des métamodèles en fait qui essayent d'inclure ces trois types de douleurs chez un patient. Et
Je vois.
dans une douleur, quand quelqu'un souffre, il y a forcément de la sensibilisation centrale. Ne serait-ce que parce que quand on met un excès de nociception, et ben la première synapse commence à avoir, commence à être sensibilisée en fait. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir une activation des nocicepteurs en périphérie qui peut être un peu plus sensible que d'habitude pour plein de raisons. Et notamment un système neuro-immuno-endocrinien un peu sensible, on va dire, par rapport à un contexte, que ce soit par rapport à de la fatigue, par rapport à du sommeil, peut sensibiliser aussi bien les nocicepteurs en périphérie que la première synapse. Et que ce qui s'active aussi dans les voies corticales, ça peut augmenter la facilitation descendante, ça peut inhiber l'inhibition descendante.
Très bien. Et ben, du coup, merci. Je pense qu'on saisit un peu mieux grâce à tes explications la différence entre sensibilisation centrale, un petit peu les termes qui subviennent, et un petit peu la douleur nociplastique qui sera plutôt quelque chose de plus large.
En fait, c'est ça. Le truc qu'il faut vraiment retenir, c'est que la sensibilisation centrale, c'est un processus neurophysiologique normal. Il arrive dans n'importe quel cas de blessure, ça arrive.
D'accord.
Et
Donc,
c'est ce qui explique en fait ces zones d'hyperalgésie secondaire, c'est-à-dire que les fibres A-bêta provoquent de la douleur alors qu'elles ne devraient pas en provoquer. Allodynie secondaire ou hyperalgésie secondaire. À distance de la blessure, à distance de la blessure, donc autour, mais même sur le membre contralatéral, en fait. Et ça, c'est des signes, et c'est ça qui est intéressant en clinique, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a une entorse d'un côté, s'il commence à avoir de la douleur de l'autre côté, eh ben, ça peut être un signe de sensibilisation centrale de la corne postérieure de moelle. Et c'est
d'accord.
pas parce qu'il a mal adapté, parce qu'il a mal marché, en fait.
Ok, très bien. Et
Et
ça
maintenant,
tombe bien.
quand celle-ci, elle perdure, et ben c'est là où ça entraîne plein d'autres phénomènes plastiques au niveau du système nerveux. Et c'est très difficile de décortiquer, à force d'essayer de décortiquer la biologie, on en perd après, c'est un des problèmes de la sensibilisation centrale, c'est qu'on en perd un peu l'être humain au final.
Je pense que tu as raison. Et du coup, ça fait un petit peu co-recherche qui avait été faite où il venait chauffer une partie du pied jusqu'à déclencher de la douleur et qu'il testait sur la sensibilité sur le pied contralatéral qui était augmentée. Du coup, les seuils de douleur diminuaient. Et donc, du coup, ça, on pouvait l'attribuer non pas par du coup, un changement de la manière de boiter, mais plus par un changement au niveau de la sensibilité plutôt centrale. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, c'est ça.
OK.
Bah, pour le coup, il y a un article de référence en fait sur la sensibilisation centrale, c'est celui de Wolf de 2011, et là-dedans il y a tout, et ils expliquent un petit peu tous ces phénomènes, justement de ce dont tu parles, là, cette étude qui montrait que qui montrait cette notion qu'on appelle d'hyperalgésie tertiaire en fait, ou d'allodynie tertiaire du côté contralatéral.
Très bien. Eh ben, on le mettra en lien. Et donc, merci pour tous ces éclaircissements.
Voilà, c'était la fin de notre premier podcast. Merci à tous les auditeurs et nous rejoignons rapidement pour le prochain podcast qui sera sur comment évaluer la sensibilisation centrale.